Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, confiné, enregistré à distance, mais rendu possible grâce aux techniciens de Radio France qui nous réunissent ce soir. À l'ordre du jour ce soir, entre science et politique, qui décide ? La crise sanitaire a brusquement remis sur le devant de la scène des scientifiques habituellement discrets, devenus brusquement la boussole d'une pandémie difficilement contrôlable. Depuis un mois et demi, le gouvernement a constamment, ou presque, dit agir sous les conseils des scientifiques qu'il avait nommés pour l'épauler dans la tempête. Mais le milieu scientifique est divers, il pratique le doute comme une vertu, fonctionne à un rythme plus lent que les médias, l'opinion publique et même les politiques. Comment alors faire avancer cet attelage science et politique sous le regard des citoyens en temps de crise? C'est la question que nous posons ce soir à nos trois invités. Roselyne Bachelot, éditorialiste qui fut ministre de la Santé et des Sports lors de la crise sanitaire de 2009-2010 avec l'épidémie de H1N1. Philippe Kourilski, professeur honoraire au Collège de France et directeur général honoraire de l'Institut Pasteur. Et Christine Noiville, juriste, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Bonsoir Roselyne Bachelot, je voulais commencer avec vous cette émission. Bonsoir. Puisque c'était il y a 10 ans, à quelques semaines près, que vous vous trouviez donc devant une commission d'enquête parlementaire autour de la gestion de la crise H1N1 que vous aviez donc en charge en tant que ministre de la Santé. Ça fait 10 ans. Est-ce que cette distance de temps permet de dire que l'on peut apprendre d'une crise sanitaire et que l'on gère différemment une crise sanitaire lorsqu'elle advient 10 ans plus tard après une autre crise importante comme celle que vous avez eue à gérer, Roselyne Bachelot?
J'ai coutume de dire qu'il est très délicat de tirer des leçons des crises sanitaires, car aucune crise sanitaire ne ressemble à une autre. Quand je suis arrivé en responsabilité, nous sortions de la crise de la grippe aviaire. Mmh. Et la grippe aviaire, contrairement à la grippe porcine que j'ai eue en responsabilité d'assumer, cette grippe aviaire était une grippe peu contaminante, mais extrêmement virulente. C'était la grippe H5N1, contrairement à la grippe H1N1, qui s'est révélée, elle, moins virulente, mais beaucoup plus contaminante. Et on a bâti une cathédrale administrativo-sanitaro-opérationnelle qui s'est souvent révélée plus compliqué, finalement, imposant des présupposés qui nous ont gênés dans la gestion de la grippe H1N1. Et on voit bien aujourd'hui que l'épidémie de coronavirus n'a rien à voir avec une grippe à myxovirus et que les perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Donc, à part quelques présupposés qui serait plutôt philosophique qu'opérationnel, il est très difficile de tirer des leçons des crises antérieures.
Vous disiez d'ailleurs devant la commission sénatoriale, devant le Sénat, vous disiez en 2010, les menaces ne prennent jamais la forme que l'on attend, Roselyne Bachelot. Donc vous le disiez déjà et vous le redites d'une certaine façon 10 ans plus tard.
Oui, je le redis, d'autant que je suis très flatté des commentaires qu'on me fait, et certains ont parlé de réhabilitation, c'est très excessif. À part le principe philosophique qui veut que devant une menace largement inconnue, une seule philosophie puisse être à l'œuvre, c'est la philosophie de la prévention maximum, il faudrait se garder d'imaginer des prises en charge spécifiques ou des cathédrales administratives spécifiques, sauf à avoir des errances qui pourraient être contre-productives.
Oui, Philippe Kourilski, vous étiez vous aussi devant cette commission d'enquête à l'époque, justement, devant le Parlement, et vous insistiez vous aussi sur la nécessité, évidemment, de se préparer, d'imaginer comment préparer une crise sanitaire à venir, mais néanmoins sur cette incertitude qui était présente et que nous avons pu mesurer lors de cette crise de 2020.
Je dois dire que sans aucune flagornerie, je fais partie de ceux qui ont toujours soutenu l'action de Madame Bachelot lorsqu'elle était ministre et qui n'ont jamais critiqué ses décisions de mettre en œuvre un plan très très ambitieux, sachant d'ailleurs qu'à l'époque, il faut s'en rappeler, l'Organisation mondiale de la santé avait décrété un niveau d'alerte qui était probablement au-dessus de ce qu'il aurait fallu. Donc voilà. J'adhère tout à fait à l'idée que ces crises sanitaires sont jamais les mêmes. Elles sont jamais les mêmes biologiquement, bien entendu. Elles sont pas non plus les mêmes au niveau de l'image. Par exemple, l'image d'une crise qui est plus récente et qui ne nous a pas touchés, c'est celle du virus Ebola. L'image est terrifiante, si vous voulez. Ebola, finalement, a pu être contenu. Nous n'avons pas été touchés. De toutes ces crises, on aurait pu tout tirer quand même quelques enseignements au niveau de la prévention. Pour revenir sur l'image, il faut se rappeler que, pour l'instant en tout cas, la grippe de Hong Kong a fait quand même beaucoup plus de morts que le coronavirus aujourd'hui.
En 1968.
Donc si vous voulez, la question de 68-69, oui. La question de l'image nous renvoie à ce que le public perçoit et ce que l'on fait percevoir au public, bien entendu. Et ça impacte également l'ampleur des mesures de prévention. Mais s'il y a une leçon à tirer, c'est quand même, il vaut mieux avoir des plans d'urgence qui soient prêts.
Oui, Christine Noiville, vous êtes avec nous. Bonsoir, vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS, et vous vous intéressez justement à ces relations entre droit, science et société. On peut dire tout de même que la façon dont le président de la République a montré son intérêt pour la science, dont il a dit dès le départ qu'il allait agir sous le couvert d'un conseil scientifique, a surpris, même s'il y a une longue tradition de cohabitation des scientifiques, des savants, comme on le disait au XIXe siècle, avec la République depuis la fin du XIXe siècle, et qu'ils ont participé à de nombreuses reprises, justement, à conseiller les dirigeants de notre propre pays, Christine Noiville.
Oui, ça c'est sûr que les liens entre sciences et politique, entre décideurs et scientifiques, étaient effectivement, comme vous le dites, une vieille histoire qui date pas d'hier, et que entre ces deux figures, les relations n'ont pas toujours été simples, ne sont pas simples. Parfois, scientifique est conseiller du prince, parfois il sert de caution, parfois d'alibi, parfois ses avis sont foulés aux pieds, que sais-je encore. Et c'est vrai que la situation que nous sommes en train de traverser montre à quel point ces relations, même si elles sont anciennes, et même donc si les difficultés ou la coopération ne sont pas toujours simples. La crise actuelle met effectivement particulièrement tout ça en relief. Alors, vous avez mentionné quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, un comité scientifique a été mis en place par le président de la République. Il a été mis en place de nouveau, c'est-à-dire que c'est le comité scientifique présidé par Jean-François Delfraissy. On n'est pas les seuls à avoir procédé de cette façon-là, mais d'autres ont procédé différemment. Par exemple, la Suède s'est appuyée sur sa très puissante et très respectée agence de santé publique. Et la France aurait pu tout à fait, elle aussi, faire le choix de s'appuyer sur des instances dont Roselyne Bachelot a parlé tout à l'heure, mais presque indirectement, le Haut Conseil de la Santé publique, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, etc., qui ont été développées. D'ailleurs, après d'autres crises, il y a 15, 20 ans pour certaines, et donc on aurait tout à fait pu effectivement prendre appui sur cet existant institutionnel, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit un certain nombre d'observateurs, et particulièrement dans mon domaine, celui des juristes, à dire que cette organisation-là de l'expertise, ce choix de nommer un nouveau comité scientifique, dont l'existence a été légalisée par la loi d'urgence sanitaire, bien finalement, elle se faisait en marge des institutions et que se mettait en place une espèce d'état parallèle, ce qui est quand même une critique extrêmement forte, me semble-t-il. Alors, moi, je rejoins pas du tout cette manière de penser. Je suis beaucoup plus proche de ce que viennent de dire les autres invités. Qu'il y ait derrière le choix du président de la République de mettre en place un comité nouveau, un message politique, une volonté de placer la science dans la science une foi importante, voire d'exploiter politiquement la figure du scientifique dans cette affaire, c'est tout à fait possible. Il y a aussi une défiance peut-être à l'égard des administrations en place, c'est possible aussi. Mais enfin, je pense qu'il est important de dire que aller jusqu'à dire qu'on a affaire à un État parallèle, c'est très exagéré, parce que qu'on dise qu'il y a une législation parallèle, une réglementation parallèle, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais elle me semble justifiée. Il me semble que la situation d'urgence, la nécessité d'avoir une expertise très opérationnelle, capable de donner au gouvernement des lignes d'action stratégiques, c'était absolument indispensable. Je rappelle que baser son savoir sur une expertise adaptée, c'est non seulement nécessaire, mais c'est une obligation juridique que le politique peut voir sa responsabilité ex post engagée pour n'avoir pas suffisamment mis en place une expertise adaptée aux enjeux. Et pour moi, l'important, c'est que les autres instances existantes restent dans le jeu. Or, c'est le cas. Il y a eu un peu de flottement au début, c'est tout à fait vrai. Mais maintenant, elles sont dans le jeu. Le Haut Conseil de la Santé publique rend de très nombreux avis qui viennent nourrir l'expertise du comité scientifique, qui viennent même s'y ajouter. Et je crois que donc le procès qui est fait est un mauvais procès.
Rosine Bachelot, vous avez noté, et vous le disiez devant les commissions parlementaires en 2010, qu'effectivement, il y avait un troisième acteur, peut-être un quatrième si on considère la presse comme relais de l'opinion publique, mais un troisième acteur dans ce... Ça n'est pas simplement un duo science-politique, il y a l'opinion publique. Et lorsqu'on vous interrogeait sur la question des vaccins, par exemple, vous disiez, ben, nos concitoyens ont voulu... Et puis, ils n'ont plus voulu se faire vacciner. Donc, il y a aussi le temps, la durée, la façon dont l'opinion publique écoute les scientifiques, écoute les politiques, et puis en fait, font parfois à leur guise, d'une certaine façon, Rosine Bachelot.
Oui, et le phénomène que je notais en 2010 s'est considérablement augmenté et jusqu'à l'excès avec l'intervention des réseaux sociaux qui étaient balbutiants au moment où j'ai eu à gérer cette crise, et la prégnance des chaînes d'info, où je travaille d'ailleurs maintenant, mais je prends toujours ça avec la distance nécessaire que me donne mon expérience de vieux birbe maintenant, si je puis dire. Et donc, il y a une caisse de résonance tout à fait incroyable. Pour en revenir aux propos précédents, il est vrai que l'existence d'un comité scientifique m'interpelle et me pose question. Parce que avoir un avis scientifique, s'appuyer sur les scientifiques est évidemment totalement indispensable. Quelles que soient les expériences médicales et scientifiques des différents ministres, ce n'est pas pour ça, d'une certaine façon, qu'ils ont été nommés, et il n'est pas illégitime qu'un ministre de la Santé ne soit pas médecin. Il y a d'excellents ministres de la Santé qui n'ont pas de connaissances scientifiques, ou même, comme moi, docteur en pharmacie. Mais évidemment, il faut s'appuyer sur des connaissances scientifiques qui sont exprimées par un certain nombre d'autorités académiques et d'opérateurs de santé. J'ai toujours veillé à ce que le conseil autour de moi soit extrêmement pluriel et convoque non seulement les sciences dures, les sciences médicales, mais aussi, et ça me paraît très important, les sciences juridiques et les sciences sociales. Mais évidemment, instaurer un comité scientifique, c'est de facto instaurer une sorte d'autorité politique qui apparaît quasiment à égalité avec le pouvoir politique. Et c'est sans doute cela qui crée de la confusion au point où nous en sommes.
Ça délégitime selon vous les instances qui sont théoriquement chargées, au Conseil de la Santé publique ou d'autres, qui sont théoriquement chargées de gérer ce genre de problèmes, et disons, ça les met momentanément sur la touche avant qu'elles ne, comme le disait Christine Noiville, qu'elles tentent de revenir dans la discussion, c'est cela?
Je ne dirais pas que ça les délégitime, ça les fragilise. Plus exactement, ce qui me paraît plus adéquat. Il n'est que de voir dans la décision de déconfinement, l'opération de déconfinement sur l'école, on jette sans arrêt à la figure du pouvoir que le comité scientifique se serait prononcé contre ce déconfinement. Quand on veut bien regarder les attendus du comité scientifique, ce n'est pas tout à fait cela, puisque le comité scientifique a plutôt émis un avis disant qu'il n'était pas pour un déconfinement qui serait un déconfinement retour à la scolarisation précédente. Donc on voit bien que le comité scientifique est agité, est instrumentalisé, lui aussi, par un certain nombre d'instances dont les arrière-pensées politiques ne sont pas absentes, bien évidemment. Parce que je remarque que la science, dans sa diversité, est instrumentalisée par les croyances. C'est-à-dire que chacun, dans la science, ne prend que les avis qui sont conformes à ces présupposés. Et c'est en cela que la science montre ses limites.
Philippe Kourilski, c'est vrai que ce conseil scientifique a fait brutalement, parce que évidemment l'attention de l'opinion publique était portée sur lui, de ses membres, des gens qui sont devenus des vedettes des médias, que l'on voit tous les jours à la télévision, que l'on entend tous les jours à la radio ou qu'on lit dans la presse. Et d'une certaine façon, effectivement, on a parfois l'impression, comme le disait Christine Moiville, que le pouvoir peut s'appuyer sur une confiance que les Français auraient dans la science, alors que lui-même a un problème de confiance avec son opinion publique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de jeu aussi d'utiliser les scientifiques au profit justement du pouvoir politique ?
Oui et non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Bachelot, en ce sens que dans une situation comme celle-ci, au début, on a besoin de connaissances tout à fait spécialisées, qu'on ne trouve pas dans les comités existants, qui sont pluriels, qui sont multidisciplinaires, et c'est très bien. Sauf qu'il y a des problèmes dans ce genre d'épidémie qui nécessitent réellement que des virologistes, que des épidémiologistes, que etc. discutent ensemble, essayent de trouver les meilleures parades ou les moins mauvaises à des situations qui évoluent sans cesse. Donc, si vous voulez, créer un comité ad hoc dans ces circonstances est indispensable. S'il n'avait pas, on aurait pu dire qu'il fallait qu'il soit créé au sein du haut comité, etc. Mais il était absolument indispensable de réunir des compétences qui doivent discuter entre elles, encore une fois. Et je dirais que l'importance qu'on a donnée à ce comité est celle qu'on a bien voulu lui donner. Qu'il soit instrumentalisé par le politique, peut-être, sans doute, je n'en sais rien, mais je voulais faire remarquer que la création, la décision de déléguer une certaine autorité, entre guillemets, ou un certain pouvoir de recommandation à ce comité, est en soi une décision politique. La décision de ne pas le donner est aussi une décision politique. Donc c'est le politique qui a la main. Hein. Et à ma connaissance, les membres de ce comité n'ont pas vraiment cherché à se mettre en avant. Mmh. On a plutôt été les chercher, leur demander leurs avis, et puis le jeu médiatique, les attentes de la population ont joué, et il a pris une certaine importance. Il n'empêche qu'à mon avis, très franchement, il n'y avait vraiment pas moyen de faire autrement, et qu'il n'y a pas du tout déni de démocratie, à telle enseigne qu'on commence à retomber effectivement sur les instances, etc., maintenant que un certain nombre de choses se sont clarifiées. Je crois que j'ai envie d'insister aussi sur autre chose, c'est qu'on parle de scientifiques et on parle de science. Alors maintenant, il faudrait quand même définir un peu plus de quoi on parle, parce que dans la science, vous avez, disons, un corpus de connaissances stabilisées, qui sont en gros des choses relativement certaines. Vous avez la recherche qui est le domaine du doute, hein, et vous avez la méthode scientifique qui, elle, est une sorte de bien public, d'hygiène de l'esprit, que tout le monde peut et doit pratiquer dans certaines situations, et on le voit bien en matière d'information, par exemple. Les journalistes pratiquent une méthode scientifique et les fake news sont un défaut de méthode scientifique. Bon, en l'espèce, quand on est dans un domaine comme celui-là et dans un champ d'incertitude, que Madame Noiville connaît bien avec le principe de précaution, quand on est dans ce genre de situation, on est dans la situation d'expérimenter. Il n'est pas normal qu'il y ait des allers-retours, que l'on ajuste sans arrêt, puisqu'on est sans arrêt en train d'apprendre et de découvrir des choses, etc. La vitesse de découverte avec le coronavirus a été absolument extraordinaire. Pour le biologiste que je suis, c'est étonnant de voir la différence avec les épidémies antérieures. En quelques semaines, on avait la séquence du virus, on a pu faire beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc je trouve, moi aussi, que c'est un mauvais procès faire ce comité, de dire qu'il a acquis trop de légitimité, il a eu la légitimité qu'on a bien voulu lui donner, et le « on » s'inscrit effectivement dans un triangle qui comprend les scientifiques, bien entendu, et certains scientifiques et certaines instances scientifiques, le politique et le public. Voilà, donc je pense que les choses ont été tout à fait correctes.
Vous écoutez le temps du débat, un temps des débats consacré au rapport entre science et politique à l'occasion de la crise du coronavirus. On se retrouve dans un instant.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Christine Moiville, vous êtes vous-même donc juriste. Vous nous avez exposé les discussions entre juristes autour de la méthode mise en place par le gouvernement et le président de la République pour gérer cette crise avec les scientifiques. Une des questions tout de même en tant que juriste qui doit vous interroger, c'est la place du Parlement, des parlementaires. Et d'une certaine façon, on a l'impression que ce Parlement n'a pas été véritablement mis au courant. Est-ce que c'est parce que le temps parlementaire ne permet pas de réagir aussi vite que le temps de l'exécutif tel qu'il est mis en œuvre dans une crise comme celle-ci? Et je donnerai la parole à Rosine Bachot sur ce point.
Oui, merci. Peut-être, si je puis me permettre, avant de répondre à votre question, réagir à ce que vient de dire Philippe Skourinski, le comité scientifique, il n'est pas sorti comme ça, tout à coup, par magie de la volonté du président de la République. Il s'est auto-créé et il a œuvré auprès du gouvernement pour que le gouvernement aille au plus vite. Donc je pense que ça, c'est un élément quand même qu'il s'agit de rappeler pour justifier son existence, même si, encore une fois, effectivement, la question de savoir comment il s'articule avec les autres institutions est une véritable question. Alors, après, vous m'avez parlé du Parlement. Effectivement, moi, je pense que chacun doit rester dans son rôle. Ça, c'est une évidence. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le gouvernement semblait placer ses pas dans celui du comité scientifique, dont un certain nombre d'observateurs se sont demandé si finalement ça n'était pas lui qui faisait la politique. Et à certains égards, il est vrai que la lecture des avis du Conseil scientifique pouvait être un petit peu étonnante, puisque si vous reprenez notamment les premiers avis, quand bien même on parlait d'humilité, de nécessité de ne pas prendre la place du politique, etc., c'est vrai que le comité scientifique avait tendance à utiliser l'impératif comme registre grammatical. Et ça posait d'autant plus questions et d'autant plus problèmes à un certain nombre de mes collègues, notamment de droit constitutionnel, que comme vous l'avez souligné, effectivement, le Parlement lui-même était parallèlement un peu mis sur la touche. Alors c'est un grand classique en période d'urgence. Mais il est vrai que, alors même que le Parlement est normalement l'interlocuteur du gouvernement, eh bien, on sait que, à part le vote de la loi d'urgence sanitaire, la création d'un certain nombre de commissions, etc., bon, il n'a pas été particulièrement mis sur le devant de la scène. Et du reste, il ne s'est pas non plus mis lui-même sur le devant de la scène. On remarquera que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, bon, voilà. Moi, je pense que depuis lors, ça a été vrai la première semaine. Je trouve que depuis, la donne a très sensiblement changé. Il suffit de prendre les derniers avis, notamment celui sur la réouverture des écoles. Voilà, ça n'est pas un hasard si le comité scientifique a fait savoir que la décision qui avait été prise par le gouvernement était une décision politique. C'était précisément pour pointer le fait que lui avait recommandé autre chose. Mais voilà, il restait dans son rôle en disant « moi, j'éclairais après ». Le politique tranche en mettant en balance comme il le peut, et c'est vrai que de ce point de vue-là, je rejoins Rosine Bachelot qui disait que ou Philippe Kouretsky, je ne sais plus, que la décision politique est une espèce de tâtonnement au jour le jour.
Rosine Bachelot.
Aujourd'hui, il est mis dans le jeu, le Parlement.
Rosine Bachelot, justement. sur ce point et sur cette nécessité d'avoir un débat, alors que le temps d'un seul coup s'accélère pour le politique, il faut prendre des décisions très rapides, et que peut-être le temps habituel de discussion et de négociation parlementaire a été dépassé par la crise.
Il faut être honnête. Le débat avec le Parlement, le contact avec le Parlement ne peut pas obéir aux lois classiques du rapport de l'exécutif et du législatif pour élaborer des lois, examiner les lois de finances, les budgets, évidemment. Quand on est en gestion pandémique, il y a une gestion de la crise qui revient à l'exécutif et à lui seul. Il ne peut pas en être autrement. Est-ce que le Parlement est sur la touche ? Non, bien évidemment, mais disons qu'il est informé. Dans un premier temps, tout le long de la crise, on informe, on peut d'ailleurs recueillir certains avis. Je dois dire que, pour avoir le souvenir de la grippe AH1N1, il est bien évident que le Parlement n'est pas à la confluence des connaissances et des avis qui alimentent le gouvernement, et que la faiblesse des informations qui remontent jusqu'à lui est d'un niveau tel qu'il est très difficile d'avoir une sorte de co-gestion entre l'exécutif et le législatif. Alors ensuite, après avoir vécu cette phase d'information du pouvoir législatif, il aura un pouvoir de contrôle. Il aura un pouvoir d'analyse de la crise. A-t-elle été, oui ou non, bien gérée ? C'est le rôle des missions d'information et des commissions d'enquête parlementaires. Il peut avoir un rôle sur des dossiers qui, au long de la crise, interpelleraient des principes fondamentaux tels celui des libertés publiques. Je trouve que, par exemple, d'avoir estimé que la question du stop Covid, c'est-à-dire du traçage numérique des données de santé, enfin des contacts des personnes éventuellement infectées par le coronavirus reviennent devant le Parlement, me paraît totalement légitime, non seulement légitime et même indispensable, et que à ce moment-là, le vote du Parlement l'emporte sur la décision de l'exécutif. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, parce que le Parlement, là, est vraiment dans son rôle. Mais dire qu'à tel moment de la crise, il faille faire telle ou telle chose, alors que la réaction doit être dans une certaine immédiateté, n'est pas le temps du parlementaire. Mais, bien entendu, à terme, ça livre l'exécutif pieds et poings liés devant le législatif, qui se régalera en se vautrant par ailleurs dans les charmes de la lucidité a posteriori.
Oui, et d'ailleurs, une autre question que je vous pose à vous, Rosine Bachot, et que je vais poser tout de suite à Philippe Kourelski également, c'est ce retour au national que l'on a vu se mettre en œuvre. On sait que l'Europe n'a pas des compétences en matière de politique de santé, mais néanmoins, on sait aussi que les scientifiques aujourd'hui travaillent de manière très internationalisée, que les laboratoires sont sur plusieurs continents à la fois, qu'on discute entre scientifiques de tous les continents. Et là, d'un seul coup, on a vu une sorte de retour à la niche, de retour au national autour de cette gestion de crise. Est-ce que ça vous a surpris ? Parce qu'on aurait pu penser aussi que, puisque la pratique scientifique est une pratique internationale, eh bien, on pourrait mettre en commun toutes ces connaissances pour faire avancer plus vite la résolution de la crise. Rosine Bachelot, puis Philippe Kourelski sur ce point.
Alors, il est tout à fait évident que les échanges internationaux sont maintenant le béaba d'une véritable recherche scientifique parfaitement documentée et argumentée, et la notion du petit village gaulois en matière de science est absolument indéfendable. Toutefois, parce que après avoir dit cela comme démarche principielle, je ne peux que constater avec regret l'instrumentalisation de la démarche scientifique par un certain nombre de pouvoirs politiques qui réduit considérablement le présupposé que j'ai posé dès mon entrée, la réponse à votre question. Et j'en prendrai deux exemples. L'instrumentalisation par la Chine d'un certain nombre de démarches scientifiques, et nous avons vu l'instrumentalisation par M. Donald Trump, donc d'une grande démocratie et d'un pays absolument non démocratique, qui utilise les mêmes démarches de façon différente, mais qui en reviennent à la même chose, d'instrumentalisation de la science. Pour autant, il y a deux choses qui viennent confluer, c'est évidemment cette internationalisation de la démarche scientifique et le retour au national sur la logistique de la crise et sur... Et oui. Il faut pas confondre. Bien sûr, les deux choses viennent se tamponner, mais elles ne sont pas. On ne peut pas les confondre.
Philippe Kourelski, sur ce point et aussi sur peut-être cette énergie dépensée à par exemple à vouloir développer chacun des vaccins, à vouloir développer chacun pour pouvoir peut-être faire ensuite cocorico ou en crier sa qualité meilleure pour résoudre la crise pour chacun des pays. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans le contexte mondialisé actuel de la science?
Écoutez, au départ, il faut constater que l'internationalisation des premières découvertes a joué à fond. C'est ce qui a permis vraiment d'établir des tests très rapidement dans beaucoup de pays. Donc, si vous voulez, au début, ça a joué à fond. Maintenant, je crois qu'on peut quand même regarder ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est produit dans le passé, par exemple avec le sida. Il est très clair qu'à un certain moment, les intérêts économiques rentrent en jeu. Et donc, il est très clair qu'à un certain moment, et ça va se produire à coup sûr dans le cas du coronavirus, les producteurs de vaccins, etc., y compris les États qui ont soutenu et les nations qui ont soutenu la recherche, etc., vont quand même chercher à récupérer quelques billes. Vous vous souvenez sûrement que dans le domaine du sida, certains pays ont fait appel à des règles qui permettaient d'échapper aux brevets de façon à pouvoir produire les médicaments eux-mêmes. Je pense qu'on assistera à ce même genre de problème parce que ils font partie d'une sorte de logique économique qu'on peut trouver malheureuse, mais qui existe. Alors, ceci étant, si vous voulez, quand vous parlez du retour au national, je crois qu'il y a quelque chose de très très important et de très intéressant dans cette crise que Madame Bachelot a évoquée, c'est qu'elle est franchement internationale. Et donc, si vous voulez, contrairement aux crises précédentes, y compris Ebola, contrairement aux crises du SRAS et du MERS, qui ont touché un petit nombre de pays finalement, là c'est vraiment beaucoup beaucoup de pays, de telle sorte que les comparaisons peuvent être effectuées, vont être effectuées, sont effectuées dans l'esprit d'une partie du public, entre les systèmes de gestion de la crise. Et l'une des choses qui m'inquiète, c'est que dans ces comparaisons, on va clairement arriver à problème de savoir si un système démocratique a fait mieux qu'un autre, si un système autoritaire a fait mieux que le système démocratique, si le système américain est bien pire que les autres, ce qui est effectivement assez mon avis, mais bon, et donc il va y avoir une sorte de mise en cause de l'efficacité de la démocratie, de l'efficacité de la démocratie, parce que quand même, dans une démocratie, les citoyens, ils attendent une certaine efficacité de la part des gouvernements, ce qui évidemment impacte sur les problèmes et les gestions de plus long terme qui ont déjà été évoquées. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que l'Europe, sur ce point, est en grand danger, à mon avis. Elle a failli dans beaucoup, beaucoup de dimensions au niveau de la gestion communautaire d'une crise qui concernait toute l'Europe. Et je pense que rebâtir ça, ça va être un sérieux problème. Donc ce retour aux frontières, si vous voulez, il va être difficile à réverser.
Une autre question, Christine Noiville. On s'étonne de voir effectivement ce conseil scientifique, ces scientifiques auprès du pouvoir aussi puissant apparemment, mais on se demande si par exemple ça pourrait durer. On voit toutes les contestations qu'il y a eu et qu'il y a encore d'ailleurs autour des rapports du GIEC sur le changement climatique. Et là, on voit des scientifiques qui sont régulièrement contestés à la fois par des pouvoirs politiques et des opinions publiques qui ne veulent pas suivre leurs recommandations. Est-ce que vous pensez que ce que nous avons vécu pendant ce temps particulier de la crise du coronavirus pourrait avoir des effets sur la suite en matière justement de place de la science dans le discours politique vis-à-vis du changement climatique?
Oula, vaste question. Je vais d'abord, si vous le voulez bien, nuancer l'idée de puissance que vous venez d'exprimer. Vous avez dit le comité scientifique, dans sa toute puissance, etc., etc.
Je voudrais. Non, je n'ai pas dit dans sa toute puissance, mais oui, allez-y.
Enfin, voilà, effectivement, il exerce un rôle absolument clé auprès des pouvoirs publics, mais encore une fois, je crois qu'il reste dans son rôle, dans le rôle qui est le sien, d'éclairer, sans aller plus loin. Donc, je pense que, voilà, une chose est qu'il soit omniprésent, qu'il soit mis en lumière en permanence, etc. Autre chose est qu'il prétende faire la politique à la place du politique.
Bien sûr.
Je crois que c'est assez faux. Voilà. Mais une fois cela mentionné, je crois que votre question est vraiment très importante, qui consiste à se demander si le crédit qui est placé aujourd'hui dans les scientifiques montre que la donne va changer ou peut changer après la crise. Par exemple, pour ce qui concerne les politiques environnementales, comme en matière de changement climatique. Ça, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, et il faudrait être prophète pour y répondre. Oui, on a su, bien sûr, on a su écouter les sciences, on sait les écouter aujourd'hui, les scientifiques, on sait privilégier la santé sur tout le reste. Je crois que c'est vraiment un point qu'il faut rappeler. Mais est-ce que demain, l'État, les citoyens prêteront une oreille plus attentive aux scientifiques du GIEC, du Haut Conseil pour le Climat, qui nous invite instamment à prendre des mesures beaucoup plus radicales contre le changement climatique? Est-ce que les citoyens, les acteurs économiques, est-ce que nous, on sera prêts à des efforts, à des entailles dans nos libertés, telles que celles qu'on vient d'accepter dans le cas du Covid? Est-ce que les pouvoirs publics songeront à s'engager dans cette voie? C'est vraiment une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais qui est effectivement importante. Moi, ce que je trouve intéressant, simplement en un mot, par rapport à ça, c'est d'observer la réaction qu'a engendrée il y a quelques jours ou une semaine à peu près l'avis du Haut Conseil pour le Climat qui appelait, vous avez probablement vu, à agir avec davantage de détermination dans ce domaine, en disant, regardez ce qu'entraîne comme conséquence sanitaire, je simplifie un peu le propos, la dégradation du climat et de l'environnement, voilà ce qu'on récolte. Et j'ai trouvé assez intéressante la réaction plutôt violente d'un nombre non négligeable d'acteurs qui reprochaient au Conseil du Climat de faire un lien de cause à effet là où il n'y a pas encore de preuve scientifique qu'il y en ait un. Être attentif à ce que nous enseignent les données scientifiques aujourd'hui et consentir des atteintes profondes à nos libertés, c'est une chose. Mais voilà, savoir si cette réalité-là peut être extrapolée à d'autres champs, j'aimerais bien le savoir.
Rosine Bachelot, sur ce point, est-ce que vous pensez qu'on pourrait tirer les leçons justement de la place des sciences dans nos sociétés et dans la décision publique à propos du climat?
Oui, effectivement, on peut tirer des conclusions et Dieu sait si les politiques climatiques ont mis de côté la démarche scientifique, et s'il y a un dossier sur lequel la science l'a emporté, a gagné la bataille, c'est bien la question du climat. Parce que si les politiques ne s'étaient pas appuyées sur les travaux du panel international sur le changement climatique, rien n'aurait été fait. C'est vraiment un dossier où le politique s'est mis dans les pas de la science, avec tous les errements, tous les retards, toutes les contestations. Mais là, il n'y a pas à dire, le match, c'est 1-0, c'est 1 pour la science, et le point a été fait. Il est loin d'en être le même sur la question, les questions subséquentes, mmh. et en particulier la question des pandémies. Je sais bien que l'effraction des milieux naturels paraît être, sans jeu de mots, une clé d'entrée, une clé de réflexion sur la diffusion d'un certain nombre de pandémies. Sur le plan scientifique, c'est séduisant de se dire, par exemple, que un certain nombre de cultures, de déforestations, ont en quelque sorte été une clé d'entrée de virus qui étaient pour l'instant confinés dans des espèces animales qui vivaient dans des milieux protégés où l'homme ne pénétrait pas. Pour autant, l'histoire des épidémies et des pandémies dans les millénaires nous incite à la modestie sur cette approche. Donc pour l'instant, je dois dire que ma doctrine personnelle n'est pas du tout solidifiée, n'est pas documentée. Mm-hmm. Je pense qu'il en est de même pour un certain nombre de personnes.
Merci beaucoup, Rosine Bachelot. Un dernier mot sur ce point, plutôt sur un point subséquent à ce qui vient d'être dit par à la fois Christine Noiville et par Rosine Bachelot, Philippe Kourilski. Est-ce que vous pensez que cet apprentissage du doute, mais très brièvement, cet apprentissage du doute par les opinions publiques, du doute scientifique, voyant les scientifiques évoluer au fur et à mesure de l'avancée de la maladie et de la crise du coronavirus, eh bien, permettra de mieux faire comprendre comment fonctionne la science et que ça n'est pas quelque chose qui tombe de la tête d'un génie ou d'une intuition particulière de tel ou tel scientifique, mais que c'est un processus. Est-ce que vous pensez cela très brièvement, Philippe Kourilski?
Je pense que c'est une question qui a deux faces. La première, c'est que il faut une acculturation du public aux notions de probabilité de statistique. Et c'est très difficile et c'est encore une fois une source de biais cognitif et c'est très compliqué. Il faut aussi une acculturation des scientifiques à la société civile. Mmh. Je fais partie de ceux qui pensent que les scientifiques ne s'impliquent pas assez, non pas ex cathedra, mais se mélanger, mouiller leur chemise dans les contacts avec la société civile. Et je pense que c'est comme ça que l'on pourra progresser avec un certain optimisme, notamment dans le domaine du climat.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Rosine Bachelot. Merci à vous, Philippe Kourilski. Et merci à vous, Christine Moiville, d'avoir participé à cette discussion autour des rapports de science et politique pour savoir qui décide entre ces deux sphères de la vie publique. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier, Manon Prissé, qui prépare avec moi ces émissions et qui continue de nourrir chaque jour ce qu'on appelle la conversation mondiale, des textes qui sont publiés sur le site de France Culture, des textes d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes du monde entier. Merci également au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche, mais aussi pour cette émission enregistrée chacun chez soi et à distance à Jean-Marc Clos, Christian Denis Lecèvre, Marie-Christine Vesli, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger et Théo Gomard et à la réalisation Alexandre Manzanares. Et demain, nous nous interrogerons sur les liens entre État et collectivités territoriales dans cette crise du coronavirus.